This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Avant de commencer votre épisode, j'aimerais vous parler du film Rosalie, qui est actuellement au cinéma. Un film réalisé par Stéphanie Di Giusto, qui présente le destin de Rosalie, une jeune femme qui se découvre et s'émancipe dans la France très puritaine de 1870. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Rosalie est une femme à barbe, un trait physique quelque peu particulier, surtout pour les mœurs de l'époque. On vit avec Rosalie sa quête d'amour et de liberté face à une société qui ne l'accepte pas à cause de sa différence. Le film réunit pour la première fois Nadia Tereskevitch et Benoît Magimel, tous les deux très touchants dans cette histoire d'amour complexe, mais très belle. Alors n'attendez plus pour aller voir Rosalie au cinéma dès maintenant et découvrir ce film qui célèbre l'acceptation de soi et des autres. Vous pouvez aussi découvrir l'interview de Nadia Tereskevitch, le personnage principal du film, dans notre dernier épisode de Pépite. À très vite.
Louis.
Pépite.
Pépite.
Pépite, un podcast culturel co-présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème.
Par rapport au marché, on est supposé donc aujourd'hui avoir tout qui est réfléchir les choses en termes de projets, alors que ce ne sont pas des projets pour moi, c'est des œuvres. Donc en fait, j'y mets mon ventre, j'ai l'impression que ma vie est en jeu quand je fais une œuvre.
Les yeux de la peintre Apollonia Sokol sont verts, presque jaunes. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle les représente dans ses tableaux monumentaux. Des yeux qui se perdent dans le vide quand elle cherche l'inspiration. Des yeux qui ont déjà vu tant de choses. La séparation de ses parents, la gentrification du quartier qu'il a vu grandir, ou la mort de son amie, la militante et artiste Oksana Tchatchko. Rencontrée à l'occasion de la sortie du documentaire Apollonia, Apollonia, réalisé par la Danoise Léa Globe, qui l'a filmé pendant près de 15 ans, elle nous a accueillis dans son atelier de Montmartre, un atelier où vivait Picasso au début du XXe siècle. Avec elle, on a parlé de sa maison d'enfance, qui était un théâtre, de tous les mondes qu'elle a traversés et toutes les langues qu'elle manie pour s'exprimer, de l'envie de peindre plus forte que tout et du jour où elle a croisé la route du monstre à l'origine du mouvement MeToo. Apollonia Sokol, celle qui voulait peindre à tout prix, ça commence. Je suis Sébastien Thème, bienvenue dans Pépite, le podcast de celles et ceux qui font la culture de demain.
Bonjour, ça va?
Attends, je sais pas où j'ai mis les pieds.
Tiens, vas-y, monte et
fais quelque chose
dans
l'ancien. Autrement, vas-y, toi d'abord.
Non, vas-y,
c'est bordel. Ah, c'est l'ancien atelier de Pablo Picasso.
Oh!
Quand vous voulez voir ici la preuve, voilà, Picasso était là, c'est lui qui a signé, Picasso was here. Là, tu vois.
Bah, on se met là alors, il y a le coucher de soleil.
On est au bateau lavoir, en fait. C'est les anciens ateliers où il y avait, qui était un squat avant, enfin, dans les années 50, où il y avait plein d'artistes ici. Et il a brûlé, il a été reconstruit à l'identique. Donc, on n'est pas dans un atelier de peinture à l'américaine où c'est un grand plateau où on peut produire plein d'œuvres. On est dans un truc biscornu avec plein d'escaliers tout en haut de Montmartre. Voilà, c'est en triplex de 45 mètres carrés. Donc, autant dire que voilà, c'est assez étriqué pour faire de la peinture. Moi, j'aime bien faire des très, très grands tableaux parfois, mais dans ce cas-là, ben, il faut que je trouve faut que j'aille ailleurs, quoi, parce que ici, c'est petit, quoi, c'est étriqué quand même, pour faire des très grands. Mais je peux quand même faire des tableaux de 2 mètres, 2 mètres de haut, 1 mètre 50, je peux en faire 6 ou 7 dans cet espace, et plein de petits formats, mais voilà, des fois, j'ai envie de faire des trucs de 4 mètres, quoi. Invendable. C'est-à-dire que les gens, ont plus des petits murs que des grands murs. Bon, ça dépend où est-ce qu'on se trouve, bien sûr, sur la Terre. Mais c'est surtout que c'est un peu dur de vivre avec un truc de 4 mètres qui sort des tripes d'Apollonia Sokol. Moi, j'ai grandi dans la Goutte d'Or, en partie, hein, parce qu'après, je suis revenue. Donc, c'est rigolo d'être pas très loin, en fait, parce que c'est comme un retour aux sources, hein, parce que j'étais très, très ancrée dans mon quartier, quand même. Château Rouge. Et je suis partie de Château Rouge, ben, il y a, en 2015-16, je sais pas, il y a quelques années. Là, maintenant, c'est mon retour. Enfin, je suis pas à Château Rouge, mais j'y passe et je suis à côté, quoi.
Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce lieu où tu vivais, qui s'appelait le lavoir moderne? En fait, du lavoir moderne au bateau lavoir.
Exactement, c'est incroyable. On pourrait croire que c'est le destin, quoi. Ouais. Je vais d'un lavoir à l'autre. Alors, j'ai grandi dans un théâtre underground qui a été créé dans les années 80 par mes parents. Donc, eux n'avaient pas d'argent et louaient le lieu. Ils ont jamais, les murs leur ont jamais appartenu. Bon, c'était un projet expérimental. Quand j'étais toute petite, il y avait de la terre battue au sol. Bon, c'était aussi un lieu qui accueillait tous les gens du quartier, différentes activités. Je veux dire, genre les funérailles, les mariages. Mais il y avait aussi, par exemple, il y avait un prêtre. Il y avait plein de choses qui se passaient dans ce théâtre. Et surtout, des spectacles vivants. L'idée, c'était que la programmation était d'auteurs vivants. Avec une programmation aussi qui était donc très ancrée dans le quartier, donc beaucoup d'intellectuels africains. Voilà, bon, c'était un endroit où on parlait de colonialisme avant qu'on puisse en parler vraiment, ouvertement. Hein, c'était quand même très controversé. Et aussi ben, de féminisme, donc c'était très engagé politiquement.
Est-ce que tu peux me parler de tes parents, même qu'on crée ce lieu incroyable?
Alors, ma mère a fui le communisme très, très jeune, en fait. C'est donc une réfugiée politique, quoi. Elle s'est enfuie. Et mon père était un Auvergnat. Voilà, tous les deux voulaient être comédiens, voulaient faire du théâtre. Ils se sont rencontrés et finalement, ils ont décidé d'ouvrir un lieu, quoi. C'était un lieu qui était supposé être expérimental, mais qui a finalement eu une vie de 30 ans. C'est quand même assez beau. En fait, nous, on vient de Biélorussie et d'Ukraine. Puis on a été naturalisés polonais après la guerre. Ma mère, c'était une artiste qui, sous ce régime qui était donc une dictature, hein, le communisme de l'époque, l'URSS, on ne pouvait pas s'exprimer. Elle voulait faire du théâtre, mais donc elle a été vouée à faire du pantomime. Parce que, parce que comme elle ne pouvait pas s'exprimer, ben, voilà, elle s'exprimait avec des gestes. Je parle assez vite en français. Enfin, je parle quoi en français. Des fois, je me trompe de mots et tout, mais les gens ne savent pas que je viens d'ailleurs, enfin que j'ai d'autres origines en fait. Et je pense que c'est important pour comprendre une culture de parler la langue. Si on parle pas la langue, on comprend pas vraiment les choses. Donc moi, ma mère, elle m'a pas appris le polonais quand j'étais enfant parce que ben c'est le complexe de tous les émigrés, comme quoi il faut que l'enfant s'intègre bien dans le pays. Et j'ai appris avec ma grand-mère à partir de l'âge de 13 ans, quoi. Je voulais vraiment apprendre avec elle. C'est comme ça. J'ai plusieurs origines et je pense que d'ailleurs, émotionnellement et amoureusement, j'ai du mal à être avec des personnes qui n'ont pas plusieurs langues, qui n'ont pas plusieurs origines, visions, quoi. Parce que l'identité, elle est fluide et si elle est fluide, elle est aussi multiple. C'est une souffrance terrible de penser que les choses sont fixées.
Qu'est-ce que ça fait de grandir dans un théâtre?
J'ai peut-être un côté très ouvert où je parle beaucoup et j'ai du mal à discerner voilà, ce qui pourrait être la vie privée et la vie publique. Je suis assez grande gueule aussi, peut-être un peu vulgaire parfois. Maintenant, je suis dans le milieu de l'art, c'est quand même quelque chose d'autre. Après, on peut critiquer beaucoup le milieu de l'art, mais en même temps, c'est aussi un endroit où on peut être transclasse. Je viens d'un truc, on peut faire de l'art sans rien, quoi. On faisait de l'art sans moyens, en fait. Je suis devenue quelqu'un qui sait se débrouiller, je pense. Enfin, voilà, un peu casse-cou.
Comment c'est venu la peinture?
J'ai toujours peint et j'ai toujours su que je voulais être peintre. C'est ça qui est un peu étrange. Bon, après, j'ai grandi dans un milieu où on pouvait être artiste. C'était pas quelque chose d'étranger du tout. J'ai toujours voulu faire de la peinture, j'ai toujours cherché des peintres et j'ai voyagé énormément à la recherche des peintres. Et donc c'est comme ça que j'ai appris, quoi, au contact des artistes. Après aussi, j'ai été aux Beaux-Arts. C'est comme si j'étais très sociable et en même temps, j'ai besoin de me renfermer sur moi-même. Donc quand je peins, je suis dans un état transcendantal. Et j'ai besoin d'une tranquillité totale. En fait, je peux pas avoir des rendez-vous, je peux pas avoir quelqu'un qui demande des choses de moi. Et puis, ça peut mettre 4 heures à regarder dans le vide avant de finalement passer à l'acte quand on est juste au bon endroit, quoi.
ce moment-là, ce moment que tu cherches quand tu peins, quand tu te mets en condition, dans quelle disposition tu te mets pour arriver à ce moment et qu'est-ce qui se passe pendant ce moment ?
Alors, on peut parler du moment lui-même, mais c'est vrai que même quand on ne peint pas, on est en train de peindre. Donc, il y a énormément de lecture, il y a énormément de recherche, puis il faut surtout énormément voir de peinture, de faut bouffer un maximum, quoi. Et quand on se nourrit, ben vient l'inspiration. Et je pense qu'on est incapable de faire quoi que ce soit seul et qu'en fait, tout est par rapport à autre chose. Si l'art est un langage, on peut jouer au jeu des références en tant qu'un vocabulaire. Et si on y pense d'ailleurs, un tableau qui n'est pas vu par un public ou qui n'est pas vécu par quelqu'un, eh ben, il n'existe pas. Enfin, il n'a aucun intérêt au final. Ça, j'ai vraiment ressenti pendant le Covid où j'ai pu peindre et que des tableaux ont été vendus par des fichiers PDF, par exemple. Il n'y a eu pas d'exposition ni rien. Bon, bah, ça n'a aucun intérêt parce que ça passe directement de l'atelier au collectionneur, collectionneuse. Et puis finalement, bah, c'est d'une tristesse infinie. Comment on entre en transe? Bah, on le fait, par la répétition. Les mouvements répétés, le son. Moi, j'ai besoin aussi de fumer. Et puis moi, j'utilise des produits naturels. La peinture à l'huile, c'est quand même beaucoup de matériaux végétaux, minéraux et animal. On entre en osmose aussi avec ces matériaux quand on travaille. Donc, j'ai besoin de toutes ces choses-là pour entrer en transe. J'ai des idées en tête, bien évidemment, des concepts, et je fais référence à certaines choses. Et puis, la magie, elle se passe quand il y a la partie des choses maîtrisées, réfléchies, qui se mélangent avec les choses non voulues, nécessairement, non planifiées. Et puis, si ces éléments-là, ils se retrouvent dans la tension parfaite, ça peut être un bon tableau qui tient tout seul. Peut-être. Mais c'est difficile, hein. Il y a beaucoup de peur. Hein. Et puis d'ailleurs, quand il y a le doute et toute la souffrance qui va avec toutes ces choses-là, parce que c'est très douloureux, c'est certainement une bonne chose. Parce que s'il n'y a pas de doute, c'est un produit qu'on est en train de faire.
Est-ce que le doute, il peut t'empêcher aussi de finir ta peinture ?
Aujourd'hui, je pense que je suis un petit peu plus forte quand même qu'avant pour terminer les choses, mais je fais un truc qui n'est vraiment pas professionnel. Je finis les tableaux dans les musées la veille de vernissage, quoi. Ça m'arrive régulièrement. Alors, c'est pas professionnel. Je tiens à préciser que c'est pas professionnel dans le monde contemporain, oui, du marché de l'art qui est absolument insane. Ouais. Hein, il faut tout le temps sortir du nouveau, du nouveau, du nouveau.
Je voulais revenir peut-être du coup à ce qu'on voit sur ces tableaux. Il y en avait en grande majorité des femmes. Toi ou des femmes ?
Moi, c'est facile de faire un autoportrait, c'est toujours plus simple. Hein. Tous les gens qui font de la figuration commencent par l'autoportrait parce que tu as toi devant toi. Donc à partir du moment où il y a un miroir, c'est assez simple. Et puis même si tu fais pas de la figuration, tu parles toujours de toi quand tu fais un truc. Donc ça c'est assez naturel. Et c'est également naturel de peindre les gens que tu aimes ou des gens qui sont autour de toi. C'est ce que je fais en fait. Je peins des femmes, mais j'aime les femmes. Et je peins des femmes fortes qui ont des histoires auxquelles je peux m'identifier, qui font sens pour moi, qui méritent d'être peinte, quoi. C'est des gens que je connais, des gens que j'aime. Et puis c'est aussi des personnes qui participent vraiment à la confection du tableau. Et j'essaie de les représenter de la façon dont elles ont envie d'être représentées. Donc, elle participe vraiment à la discussion de comment est-ce que le tableau va être fait. Ce qui rend les choses très, très compliquées, bien évidemment. Surtout aujourd'hui, qu'on a accepté que les genres sont fluides et qu'on a le droit, donc par la fluidité, on change tout le temps. Et le temps d'un tableau est beaucoup plus lent que les identités d'une personne. Parce que comme elles sont fluides, elles peuvent bouger comme elles veulent. Donc ça, c'est aussi rigolo, je trouve. Il y a une espèce d'anachronisme comme ça par rapport au temps de la peinture à l'huile. Mais donc, c'est des gens que j'ai dans mon entourage et qui me plaisent.
Des gens, même, qu'on voit dans le documentaire de ton ami qui sort et qui s'appelle Apollonia Apollonia.
Alors, ça, c'est drôle parce que souvent, on présente Léa, la réalisatrice, comme mon amie. Léa, c'est quelqu'un de très proche de moi. Elle m'a filmé pendant 13 ans. Mais ça n'a jamais été mon amie. Et d'ailleurs, ce n'était pas mon amie au début. On était complètement étrangères. Et en fait, non, ce n'est pas un film entre copines, quoi. Elle, au début du documentaire, elle fait un documentaire de façon traditionnelle, académique, comme on apprend à faire dans les écoles de cinéma au Danemark, à savoir, elle est voilà, quelqu'un qui est là pour nous observer. Donc il y a un peu une objectification, un fantasme sur voilà, ce milieu à Paris, de l'underground, de ce théâtre et tout. Plein de clichés. Et plus le film y continue, plus elle va finalement retourner la caméra vers elle-même, elle va me laisser moi la place d'être un humain, et je passe de l'objet de désir ou l'objet tout simplement à finalement une personne qui va lui ouvrir des portes, voilà, pour qu'elle elle s'affirme. Quand elle s'affirme, moi je m'affirme, et c'est ça qui est chouette dans cette relation. Mais une amie qui est dans le film, c'est Oksana Sachko, avec qui j'ai vécu pendant des années. Et son décès a été quelque chose de traumatisant, mais aussi très médiatisé, parce que c'était quelqu'un de connu, une grande activiste, qui a fondé le mouvement des Femen, qui est devenu ce que c'est devenu après qu'elle en a été exclue. Mais elle c'était une artiste qui était visionnaire. Et en fait, dans ce film, on voit vraiment notre amour. Et ça, par rapport à l'amitié, je trouve ça incroyable qu'on voit combien on s'est aimé, que c'était vrai, quoi. Et donc ça, c'est un cadeau formidable qu'a fait Léa pour moi, personnellement. Le Satan du monde voilà. De l'art. C'est son surnom. Alors, je sais pas si je dois dire son nom comme ça. Je sais pas si c'est dangereux pour moi, mais enfin, il est nommé dans le film. Oui. Mais il faut pas que je l'insulte parce que c'est un homme très dangereux. Hein. Et donc, oui, donc c'est ce qu'il fait. C'est, on appelle ça des flippers dans le marché de l'art. Donc, en fait, il va prendre des artistes qui sont désespérés. Hein, faut le dire clairement, désespérés. Donc, le film d'ailleurs, il parle beaucoup de désespoir. Il a majoritairement des artistes africains et des artistes femmes. Et donc, il va leur donner un atelier, pas beaucoup d'argent, hein, mais moi, à l'époque, c'était énorme. Il m'a donné, je sais pas, c'était 10 000 dollars, comme si c'était 10 euros, quoi. Enfin, c'était waouh. C'était fou, matériel illimité et tout. Et puis, par contre, il faut produire. On produit. Bah, après, il prend les pièces, en fait. Hein. Moi, j'ai jamais reçu d'argent pour les pièces qu'il a prises. Donc, en fait, il les a pas achetées. Il me les a volées. Et bon, ça, c'est une chose. Finalement, il dit c'est comme ça. Bon, bah c'est comme ça. Mais donc les flippers, ce qu'ils peuvent faire, c'est donc il va mettre ça, les pièces qu'il a achetées pour trois fois rien. Il va les mettre en vente aux enchères. Et là, il va appeler tous ses amis de Hollywood qui sont des ultra riches, donc des stars de cinéma en fait, hein, qui ont un argent qui est presque un argent fictif. Il va dire voilà, tu achètes ça pour 1 million. Ou tu achètes ça pour tant. Donc Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, je sais pas, Orlando Bloom, tout ça, ils vont acheter ces tableaux très très chers. Sauf que c'est pas la vraie valeur de ces tableaux. Ces tableaux ne valent pas 1 million. Ils sont mauvais. Ils ont été faits à la chaîne par des très jeunes artistes désespérés. Le danger par rapport à ça, c'est que donc ça te fait monter ta cote très très vite. Si tu montes ta cote très très vite, il n'y a pas autant d'ultra riches que ça dans le monde. Et un artiste, il doit quand même vivre toute sa vie. Donc en fait, ça peut durer pendant 5 ans. Et après, il y a un crash inévitable. Inévitable parce que ces tableaux, ces œuvres n'ont pas de cette vraie valeur, c'est une valeur artificielle. Donc même si donc il te fait comme ça, tu te casses la gueule et toi tu te retrouves à la rue. Alors donc ça c'est quand il te fait. Et alors quand il te défait, c'est aussi il a toutes tes œuvres et il peut aussi être fâché sur toi et décide de les vendre en vente aux enchères pour 3 fois rien. Et là ta cote elle descend d'un coup. Avant même d'avoir vraiment monté. Et puis, en fait, c'est très difficile de reprendre de la valeur parce que t'es dévalué. Donc, dans les deux cas, ça se passe mal. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le Satan du monde de l'art. Parce qu'en fait, tu fais un deal avec quelqu'un qui va... C'est un Satan, avec le diable.
Le diable, et d'ailleurs, moi, j'étais très impressionné. Enfin, parmi ses amis riches et célèbres, comptait aussi le producteur Harvey Weinstein.
Ben, ce qui est fou avec le film de Léa Globe, c'est que finalement, elle a, sans se rendre compte et sans nécessairement être sur place, elle a filmé tout ce qui s'est passé pendant les 15 dernières années dans notre monde, on va dire. Enfin, dans notre monde occidental de ce milieu. Elle a filmé hashtag MeToo, sans le filmer. C'est-à-dire que, effectivement, le Satan du monde de l'art m'a envoyé rencontrer un collectionneur ou une personne puissante. Pour m'aider à avoir des papiers ou acheter une pièce et c'est dans un hôtel et c'était Harvey Weinstein. Faut le faire quand même à une jeune femme naïve et désespérée comme j'étais. Et donc j'ai rendez-vous dans ce grand hôtel. Moi j'ai jamais été dans un grand hôtel à ce moment-là. Donc je rentre, je suis assez impressionnée, j'attends dans le salon. Il y a un pianiste qui joue de la musique. Puis il y a plein de gens très riches, hein, des vieux avec des jeunes. Et, et puis tout d'un coup entre, enfin j'attends un peu, puis entre cet homme très gros, hein, très grand, très corpulent, mal rasé, avec un t-shirt avec plein de taches de gras, un petit pantalon type jogging, les lacets défaits. Et en fait, le pianiste se lève et il va commencer à jouer la musique de ses films au piano. Donc là, je comprends qu'il s'agit de pouvoir. This is power. Clairement, quoi. Tout le monde le salue de la tête et tout. Alors, le mec est dans un truc hyper chic, habillé comme un plouc. Hein. Enfin, il était sale, en fait, simplement. Et puis, on est assis, et voilà, moi, je mange une tarte au citron. Donc, je lui montre des tableaux, je dis, voilà, celui-là, peut-être. Bon, non, celui-là, je sais pas, je suis peut-être intéressée par celui-là. Ah, tu l'as plu, d'accord. Mais toi, t'as du charisme. Il me dit ça, quoi. Toi, t'as du charisme. Et puis, on devrait faire un casting. On devrait monter faire un casting. Donc, voilà, là, c'est... Ce qui est drôle, c'est que moi, j'étais toujours à fond dans la peinture, mais j'en avais rien à foutre de ces films. Et donc, j'ai dit naïvement, comme ça, « Ah non, mais en fait, ben, je m'en fiche, j'ai déjà un film. J'ai déjà un film. » Et c'est tellement drôle, parce qu'à ce moment-là, je parlais du documentaire étudiant de Léa Globe. En gros, on est tous les deux rentrés bredouilles de ce rendez-vous, et 2 ans plus tard, ben, je vois « Hashtag MeToo ». Donc, 2 ans plus tard, je comprends qu'en fait, j'étais envoyée là-bas pour passer à la casserole.
Ton rapport à l'argent, tu parles de struggle, la lutte la plus grande pour un artiste, c'est ça, c'est l'argent, quoi. Et l'argent pour vivre, et l'argent pour créer. Est-ce que aujourd'hui, t'as fait ta paix avec ce truc-là, ou c'est quand même quelque chose qui est encore une obsession ? Parce qu'on le voit beaucoup dans le film, je trouve.
Bah, de toute manière, c'est que les riches qui trouvent que l'argent c'est sale, ou qui veulent pas en parler, quoi. Et d'ailleurs, il y a pas d'argent propre. Hein. Toute la propriété, c'est du vol. Bon, allez, je vais continuer tous les clichés comme ça. Non mais c'est vrai, quoi. Donc voilà, donc je pense que il faut parler d'argent. Ne pas parler d'argent, c'est prendre le parti des bourreaux. Dans le film, il y a plein de moments, ouais, comme on a dit, désespérés. On parle d'économie et tout, de précarité. C'est pas me mettre dans une belle lumière, tu vois. Mais c'est super important parce qu'il y a eu cette question. Mais il fallait que ça y soit, parce qu'autrement, ce serait soutenir le Satan du monde de l'art. Et tout ce système. Donc il n'y a pas de honte à parler d'argent. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Si les choses ont une matérialité, ben, ça a un coût. Et ça a un coût aussi de vivre dans un endroit où tu peux rencontrer les bonnes personnes. Moi, je pense que mon corps mortel, il est là pour soutenir ma peinture, qui n'est pas immortelle, parce que bien évidemment, elle vieillit et elle s'abîme, mais qui est spirituelle. Et donc, je suis obligée d'aimer un petit peu ce corps mortel, à savoir, bon, peut-être faire un peu plus de sport que ce que je fais, et d'avoir un endroit où dormir, de manger. Je suis obligée. Dans le film, on en parle. Hein. On parle que j'ai pas envie d'être une femme. On parle du genre. Mais en fait, on parle que t'as pas envie d'être un corps, que j'aimerais juste être peinture, mais c'est pas possible.
Vous venez d'écouter Pépite, un podcast Louis Média, co-présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. J'ai tourné cet épisode, il a été réalisé par le studio La Fugitive avec une musique originale composée par Michael Liu. À très bientôt dans Pépite.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis 2 mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une 50aine de pages grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6€ sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.